Ok, mais je commence à la lecture. Psaume 3. Psaume de David, quand il fuyait devant Absalom, son fils. Éternel, que mes ennemis sont nombreux, nombreux sont ceux qui s'élèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon âme, point de délivrance pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier tout autour de moi, tu es ma gloire et celui qui me fait lever la tête. De ma voix, j'invoque l'Éternel et il me répond de la montagne de sa sainteté. Pour moi, je me suis couché, je me suis endormi, je me suis réveillé, car l'Éternel me soutient. Je ne craindrai pas le peuple par milliers, qui par milliers se range de toutes parts contre moi. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu as frappé à la joue tous mes ennemis. Tu as brisé les dents des méchants. Le salut vient de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. On va commencer par continuer de prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien, qui nous aide, Seigneur, à rester dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la grâce, pour qu'on puisse jour après jour glorifier ton nom et être ces enfants de lumière que tu nous appelles à être. Merci parce que la lumière brille dans les ténèbres, Seigneur. Et c'est ce qu'on va déclarer ce matin, que ta lumière brille au milieu de nos craintes, au milieu de nos peurs. Amen. Amen. Alors, en préparant ce message, je me suis rendu compte que c'était une thématique énorme, en fait. Il y avait plein de choses à dire. Donc, bien sûr, on n'en fera pas le tour, mais on va se centrer sur quelques aspects. Et surtout, le souhait de mon cœur, c'est que le Seigneur déverse lui-même sa paix dans nos cœurs. En préparant ce message, j'avais zappé le verset 1, le premier verset. On peut réafficher peut-être. On va le relire. Parce que souvent dans les psaumes, je ne sais pas vous, mais moi c'est mon réflexe, les intros, on les zappe pour aller directement au verset 2 parce qu'on sait que c'est là où le texte commence. Et en fait, voilà, le Seigneur m'a dit, mais attends, attends, lis le premier verset, c'est important. Et donc on va commencer par ce premier verset. Psaume de David. Il nous dit qui l'écrit cette fois-ci. Pas toujours dans les psaumes. Et qu'est-ce qui se passe quand il fuyait devant Absalom, son fils? Et en fait, c'est une indication hyper importante qui nous est donnée là-dedans. Et même, je dirais que le verset m'a choqué. Et j'espère qu'il vous choque. David, quand il était en fuite, déjà ça c'est surprenant, mais pourquoi? Parce que son fils lui court après pour le tuer. Waouh, waouh. C'est ça le contexte de tout ce psaume-là. Un père qui fuit devant son enfant parce que celui-ci veut sa mort. On retrouve l'histoire complète dans 2 Samuel 15, si vous voulez la lire. D'ailleurs, vous pouvez lire 2 Samuel 14 jusqu'à 17 pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe à ce moment-là dans la vie de David. Et alors on imagine, juste avec ce verset, les sentiments qui ont pu habiter ce père à ce moment-là. On imagine la détresse, le désespoir, la peur, parce qu'Absalom, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, il a monté une armée de 10 000 soldats pour venir contre son père. C'est pas rien. Et je crois que David était ballotté dans la crainte et aussi le questionnement. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est mon fils. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller contre lui et le tuer? Ou est-ce que je dois le laisser venir à moi et me tuer? Comprenez? Tout ça dans ce premier verset. Waouh! Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Dans le cœur de David, c'est juste énorme ce qui est en train de se jouer. La chair de sa chair le trahit et veut sa mort. Alors on comprend que la crainte et même l'angoisse sont en train de le dominer. Et c'est pour cela que dès le verset 2, son premier cri à David, c'est « Éternel, que mes ennemis sont nombreux ». Ça fait du bien de relire les psaumes dans leur contexte parce qu'on les lit un petit peu différemment. Ce n'est pas, une parole où David va dire « Bon, Éternel, tu as vu quand même, ils sont nombreux là, mes ennemis ». Ce n'est pas ça, c'est un cri du cœur de David. « Mon Dieu !» Il y en a qui, dans certaines traductions, on rajoute « Oh, Éternel, que mes ennemis sont nombreux, même la chair de ma chair est contre moi. » Il est, je pense, dans un état compliqué à l'intérieur de lui. Alors, ce thème de la peur, j'ai essayé de séparer deux choses dans la peur. Et j'aimerais commencer par dire qu'il y a deux niveaux, je ne savais pas comment le qualifier, mais deux états ou deux niveaux de la crainte et de la peur et, qui peuvent se mettre en place. Et le premier, je l'ai appelé le réflexe naturel, qui est ponctuel et qui est bon en soi. Il semblerait que la peur, d'après la psychologie, soit une des émotions les plus primitive, c'est-à-dire première, qui apparaît dans les premiers cris du bébé qui sort du ventre de la maman. L'enfant se retrouve, dès qu'il sort dans un endroit inconnu, à l'extérieur du ventre, avec des odeurs différentes, surtout s'il est né à l'hôpital, avec des sensations différentes, il ressent l'air alors qu'il avait l'habitude de sentir de l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait ? Son premier réflexe, et c'est ce que tous les médecins attendent, il pleure. Et il pousse ses premiers cris. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Et alors il suffira simplement de prendre l'enfant et de le poser peau contre sa maman pour le rassurer et l'apaiser. Tous ceux qui ont été parents se rappellent peut-être de ces moments-là où le bébé a poussé son premier cri, et où soit le papa, soit la maman l'a récupéré, et alors, il s'est calmé. Bon, après, il se rattrape bien les nuits. Hein, mais... Parfois, dans nos milieux charismatiques, on va avoir tendance à prêcher contre la peur, en disant que Dieu est tout-puissant et qu'il ne faut avoir peur de rien. C'est un statut. Ce n'est pas bon, et c'est même, parfois, on va dire, c'est un manque de foi. Et doucement, on va laisser s'installer la culpabilité dans nos cœurs. Mais en réalité, je crois que Dieu a créé cette émotion à l'intérieur de nous. Et il existe des situations où la peur est bonne, voire salvatrice. Vous avez vu la photo que j'ai mise sur le PowerPoint. Imaginez quelqu'un qui fait du vélo sur le bord d'une falaise. Je crois que c'est la peur qui va faire qu'il va pencher plutôt du côté où il risque rien que du côté du vide. Et ça va le garder sain et sauf. Il y a quelques années, un ami me racontait qu'il était en train de réparer un moteur de voiture. Donc ça pèse environ 150 kilos, c'est quand même pas rien. Et les attaches lâchent et le moteur tombe sur le bras de quelqu'un qui était à côté de lui. Et il ne sait pas ce qui s'est passé. Alors la personne est vraiment, voilà, ce n'était pas un gros gabarit. Il a sauté sur la voiture d'un bond, il a attrapé le moteur et il l'a balancé sur le côté. 150 kilos. Et alors qu'il n'est pas capable de soulever, 80 kilos en temps normal. Et c'est quoi qui s'est passé ? C'est que grâce à la peur, il a eu une montée d'adrénaline, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il s'est produit quelque chose d'exceptionnel et il a pu déplacer cet engin très lourd. Donc il existe des situations où la peur va décupler les forces et permet d'agir de manière inattendu. Et la Bible nous parle de cette crainte qui est bonne aussi et qui nous garde. Il y a pas mal de versets qui parlent de la crainte qui nous garde du péché, qui nous garde près du Seigneur, la crainte du Seigneur, qui nous garde dans ses voies en restant humble dans le service. Et cette crainte-là, elle est bonne. Alors souvent, on va dire, oui, mais ça, c'est ce qu'on assimile au respect du Seigneur. Alors je suis allé voir dans le grec, et en fait, pas vraiment. C'est vraiment le mot phobos qui est employé. C'est ce qui a donné phobie en français. Et c'est la vraie crainte. C'est ouh. Cette crainte-là, le Nouveau Testament ne l'enlève pas face à Dieu, parce qu'elle est bonne. Il y a une part de nous qui doit rester impressionnée. Waouh, Dieu est là. Alors, il y a du respect. Alors, il y a une crainte qui s'installe. Et celle-là, elle perdure dans le Nouveau Testament. Elle n'a pas du tout été gommée. Même si on est invité à une relation complètement différente de l'Ancien Testament. Dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il est bien d'exprimer ses peurs, d'exprimer la peur quand elle se manifeste. On peut en parler avec quelqu'un de sa famille, avec un ami, avec quelqu'un de l'Église, et bien sûr, avec Dieu. Avec Dieu. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur de parler de notre peur, car c'est un sentiment réel et qui doit être extériorisé pour l'évacuer. David était un grand guerrier. Si vous relisez 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, vous allez être impressionné par la stature du guerrier qui était David. Mais comme tout être humain, il a eu peur. Et beaucoup de psaumes sont là pour témoigner de la manière dont il va exprimer sa peur. Encore une fois, le livre des psaumes, je le trouve extraordinaire pour ce fait-là, c'est qu'il permet à chaque homme, à chaque femme, d'exprimer tout ce qu'il ressent dans son cœur. Et quand on plonge les regards dans le livre des psaumes, on est impressionné de combien les psalmistes déversent leur âme devant le Seigneur. Et le danger avec le fait de ne pas exprimer ses peurs, c'est que nous pouvons nous installer dans ce que j'appellerais une manière de vivre au milieu de nos peurs. Et c'est l'autre type de peur que je vais changer le mot, mais on va l'appeler anxiété. Et là par contre, la Bible ne nous appelle pas à vivre dans l'anxiété. Pas du tout. Alors, j'ai pris une définition dans le dictionnaire médical de ce qu'était l'anxiété, et il nous est dit « La peur est une réaction normale, puisque là on est d'accord, qui devient une maladie lorsqu'elle survient, alors qu'aucun événement ne la justifie vraiment. On parle alors de troubles anxieux, incompatibles avec la vie quotidienne. Les troubles anxieux s'expriment de très nombreuses manières selon l'histoire familiale, et personnel du patient, son hérédité ou même son imaginaire, et ou en fonction des causes qui ont créé cette anxiété. Alors, quelle forme l'anxiété peut prendre dans nos vies? Eh bien, elle peut être ce qu'on appelle généralisée. C'est une forme d'anxiété diffuse où on ne sait pas vraiment pourquoi on est stressé, on est anxieux, on a peur. Un peu de tout, c'est un peu un état. Il n'y a pas vraiment de situation particulière, mais ça envahit tout notre quotidien. Ou alors, il y a aussi ce qu'on appelle le trouble phobique. Ça va se fixer sur quelque chose, et il y en a qui ont la phobie des araignées. Voilà, on a peur des araignées, on ne sait pas trop pourquoi en général, mais ça se focalise dessus, ou des serpents, ou etc. Il y a aussi ce qu'on appelle le trouble panique. Je me retrouve dans une situation où je ne gère plus du tout mes émotions. Ça me submerge et j'arrive plus à gérer mes émotions. Et donc il y a plusieurs symptômes qui apparaissent en fonction des cas. Il peut y avoir des symptômes psychologiques, donc de l'angoisse, la nervosité, des difficultés à se concentrer, être irritable, être tout le temps distrait. Tout ça, c'est des signes d'anxiété. Et il y a aussi les signes physiques, le cœur qui s'emballe, la tension qui monte, on a l'impression d'étouffer, on a des sueurs, ou l'inverse, des sensations de froid, on a la gorge qui se noue, on a une boule dans l'estomac, etc. Le sommeil qui est troublé. Et puis, il y a ce qu'on appelle les TOC. Bon, tout le monde sait à peu près à quoi ça peut ressembler. Et le dictionnaire médical finit en disant que cette maladie finit par gêner la vie sociale et professionnelle du patient qui vit son anxiété dans le secret et la honte. Donc même la médecine nous dit, ne cache pas, ne mets pas ça de côté dans ta vie. Avoir peur, être anxieux, ça peut arriver. Et ça arrive en fait à tout le monde en fonction de là où, de ce que l'on traverse dans notre vie. Alors revenons maintenant un peu au texte. Versets 2 et 3. Éternel, que mes ennemis sont nombreux, nombreux ceux qui s'élèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon âme, point de délivrance pour lui auprès de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que David est en train de nous décrire? Bien, au verset 2, il nous dit, les ennemis sont nombreux. David se retrouve dans une situation où il est attaqué de toutes parts. Oui, il y a une slide sur ça, tu peux la mettre, sur David. Qu'est-ce qu'il vient de vivre, David? Il s'est battu contre Goliath, ce qui était déjà pas mal, personne ne voulait y aller. Ensuite, il a vaincu de nombreux soldats. Il a dû rapporter la tête, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont lu, de 100 soldats à Saül, le roi. Il a été pris en embuscade à de nombreuses reprises. Il a subi la pression de Saül, le roi qui est en place. Plusieurs fois, il voulait le tuer. Il devient enfin roi. Ouf ! Il se dit, je vais pouvoir poser mes valises. Eh bien non, il commence une relation amoureuse interdite avec une dame qui s'appelle Bathsheba. Et puis, il commence à commettre des horreurs, à commettre l'adultère, à tuer le mari de cette femme qui était un de ses soldats. Et il perd un de ses enfants après avoir pleuré et jeûné pendant une semaine. Dur, non? Et alors qu'il a vécu tout ça, on arrive à 2 Samuel 15. Il se dit, ah, je vais m'arrêter, c'est bon, je vais m'asseoir un peu. Eh bien non, il y a son fils, Absalom, qui dit, je vais venir et je vais te tuer. Oh, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Et que mes ennemis sont nombreux. Je rappelle que Absalom est monté avec 10 000 hommes contre David. On peut comprendre qu'il soit fatigué de se battre. Et je crois qu'il avait de très nombreuses raisons pour s'installer dans l'anxiété. Et on peut se dire, c'est fini. Mais non, il y a aussi le verset 3. Parce que en plus d'être attaqué de toutes parts, eh bien, il se fait attaquer dans son identité, à l'intérieur de lui. Au verset 3, hop. Ah, merci. Il est dit, « Nombreux ceux qui disent à mon âme, point de délivrance pour lui auprès de Dieu. » David est critiqué sur qui il est. Il n'a pas été parfait, comme on l'a dit. Il a fait des choses même très graves. L'adultère, le meurtre. Et dans 2 Samuel 16, on voit combien il est, on lui rappelle. On lui rappelle ses fautes. Son fils et ceux qui sont avec son fils lui rappellent en lui disant que Dieu ne sera pas avec lui parce que c'est un pécheur. Je crois que David est à bout de force. Il a peur. Il ne sait pas quoi faire. Et son fils en rajoute et lui porte ce qu'on pourrait dire un coup de grâce. Et parfois, en fait, je pense qu'on peut se sentir dans ces situations-là, en fonction de ce qu'on vit dans nos vies. On peut se sentir submergé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. pensant que c'est trop, j'en peux plus. Les galères se répètent. J'essaie d'aller dans un sens et ça marche pas. J'essaye un autre chemin et hop, je suis bloqué. Par-dessus tout, je me sens faible, nul. Je commence à culpabiliser. Je commence à penser que je n'arriverai à rien. J'ai peur de ce qui pourrait se passer. Et je peux même commencer à dérouler un scénario sombre pour mon futur en pensant que tous les malheurs de la terre vont m'atteindre. Parfois, alors que je suis au plus bas, eh bien, j'ai la visite de la famille ou d'amis et qui, au lieu de me relever, eh bien, ils en remettent encore et ils m'écrasent, ils ne me soutiennent pas. Et alors oui, peut-être que l'anxiété est en train de frapper très fort à ma porte. Je perds confiance en moi et je me retrouve dans la crainte de faire face à ma propre vie. Et cette situation, voilà, tout le monde le vit. Tout le monde. Disons qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent passer par ce genre de situation. On est dans le pays, en France, vous savez, qui consommons le plus d'anxiolytiques au monde. C'est juste impressionnant. On est un pays de stress et de crainte, d'angoisse et anxiogène. Alors que faire? Que faire? Bien, David nous donne quelques clés pour agir face à cela. Pour ne pas s'installer dans la peur, dans l'anxiété, mais laisser Dieu transformer toute chose. Au verset 4 et 5, il va dire: mais toi, Éternel, tu es un bouclier autour de moi. Alors dans certaines traductions, ils ont traduit tu es mon bouclier, mais en fait, c'est beaucoup plus littéral de traduire tu es un bouclier autour de moi. Tu es ma gloire et celui qui me fait lever la tête. De ma voix, j'invoque l'Éternel et il me répond de la montagne de sa sainteté. Alors, qu'est-ce que fait David quand il dit « Tu es mon bouclier » ou « Tu me réponds, Seigneur, de ta montagne sainte » Eh bien, il se souvient des promesses. C'est la première étape. Se souvenir des promesses de Dieu pour nos vies. Des promesses de la Bible, des promesses peut-être que l'on a reçues personnellement, par des prophéties. Ils se souviennent de la promesse qui avait été faite à son papy, Moïse, à notre papy, Moïse, quand dans Exode 24, au verset 12, l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et je te parlerai. » Et c'est là qu'il lui donnera les tables de la loi et les instructions. Il s'est rappelé, David, la montagne. Oui, c'est de là que Dieu va me parler. Il s'est rappelé aussi, Genèse 15, la promesse qui avait été faite à Abraham, son autre papy. En Genèse 15, verset 1, la promesse est « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains pas, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » David est en train de dresser devant lui les promesses de Dieu comme un bouclier. Mais pas n'importe quel bouclier. C'est un bouclier de siège, j'ai envie de le qualifier. En fait, dans l'Antiquité, il y avait deux sortes de boucliers. Je crois qu'il y a une photo. Il y avait les boucliers plus petits et plus légers qui servaient à aller au combat et à aller terrasser les ennemis. Et puis, il y avait des boucliers beaucoup plus grands qui étaient beaucoup plus lourds. Et cela, c'était pour se protéger et on les utilisait souvent pour aller prendre des forteresses. Quand il y avait une forteresse à siéger, eh bien, on ne prenait pas les petits, mais on prenait les énormes boucliers. Et ces boucliers avaient la particularité d'entourer et de protéger aussi les côtés. D'ailleurs, dans la racine hébraïque du mot bouclier, il y a le mot ganan qui veut dire protéger, couvrir, entourer. Donc c'est ce bouclier qui m'entoure auquel David fait appel. Face à un état permanent de peur ou d'anxiété dans ma vie, il faut faire appel à ce bouclier et à rester derrière. appeler Dieu comme le bouclier qui m'entoure et attendre qu'il agisse pour moi. Attendre, dans d'autres psaumes, on va lire à l'ombre du Tout-Puissant. Ne veut pas dire être passif. D'accord ? On est bien protégé derrière notre Dieu, mais on n'est pas passif. Alors cela signifie ne pas aller au combat parce qu'on n'est pas en état, mais laisser Dieu se battre pour nous. Et pendant cette attente, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je me souviens, je me rappelle les promesses de Dieu. Je me rappelle combien Dieu est tout-puissant pour changer toute chose en bénédiction. Et je prie Dieu, je prie avec mes frères et sœurs, je reste pas seul. J'ouvre ma Bible, je lis la parole de Dieu. Et par exemple, je l'ouvre au psaume 91. Ça, c'est une bonne idée. Et même, pourquoi pas, je l'apprends par cœur. Ce qu'on ne fait pas assez dans nos milieux chrétiens aujourd'hui. On devrait apprendre un certain nombre de versets par cœur pour qu'ils nous habitent, qu'ils habitent notre cœur. Et je les repasse sans cesse dans mes pensées. J'ai pris un bout du psaume 91. Je crois qu'il est en... Je ne l'ai pas mis. On va le lire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est d'actualité ou pas ? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il y a plein de passages comme cela qu'il eut bien de se rappeler. Parfois, dans ce temps d'attente, que Dieu change la situation dans laquelle je me trouve et qui me stresse ou m'angoisse, je peux continuer d'être blessé par certaines choses. Parce que le bouclier, parfois, il ne protège pas complètement tout. Et j'ai envie de dire, même si Dieu, parfois, permet que cela arrive, c'est toujours pour nous éviter des blessures plus grandes plus tard. Dieu sait toutes choses. Il sait de quoi notre futur sera fait. Et s'il permet que même dans des temps compliqués, on continue d'avoir des petites flèches ou des jets de cailloux, c'est parce qu'il veut nous protéger de choses beaucoup plus dangereuses. Et d'ailleurs, quand les soldats allaient siéger une forteresse, quand ils allaient prendre une forteresse, personne ne sortait de ses boucliers. Pourquoi ? Parce que même s'ils prenaient des cailloux, parfois les flèches ripées ou entaillées, leur chair, ils restaient bien derrière le bouclier parce qu'ils savaient une chose, c'est que s'ils sortaient, c'était mortel, c'était fini. Le danger était beaucoup plus grand si je sors du bouclier. Et parfois, c'est pareil avec Dieu. On a besoin de comprendre que dans nos situations compliquées, le meilleur endroit, l'endroit le plus sûr, c'est derrière lui, bien protégé. Et Martin Luther a dit quelque chose à ce sujet. Il a dit, c'est le propre d'une très grande foi de reconnaître en Dieu notre bouclier. Quand les ténèbres de la mort et de l'enfer donneraient à penser qu'il va nous abandonner. C'est une grande foi de le reconnaître comme appui quand il apparaît, quand j'ai l'impression que c'est mon ennemi. Et c'est une très grande foi de le reconnaître comme sauveur quand il semble me condamner. Donc, quoi qu'il arrive, restez derrière le bouclier de Dieu. Quoi qu'il arrive, il est là pour nous protéger. Et même si parfois, il y a des petites douleurs qu'on peut subir en plus, eh bien, restons bien à l'abri, à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Et la deuxième chose, une fois qu'on a dressé le bouclier, eh bien, il faut rebâtir la confiance. Voilà. Et on va terminer avec ce point-là. Rebâtir la confiance. Et je crois que c'est ce qui va nous sortir de cet état d'anxiété. On est anxieux, on a peur, parce qu'on a perdu cette chose merveilleuse qui est faire confiance. Combien c'est précieux et combien c'est attaqué de toutes parts, cette chose-là. Faire confiance. Faire confiance en Dieu. Ésaïe 25. L'Éternel des armées, à partir du verset 6, prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents et confiance. Il y a un bon repas qui arrive. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Pourquoi ? Car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Bâtir ou rebâtir une confiance forte en Dieu. Voilà ce que nous avons besoin face à l'anxiété ou à la peur. Et pour ça, je crois qu'il n'y a ni de recette rapide, ni de recette magique. Désolé, parfois on aimerait bien, mais ça n'arrive pas. La confiance, ça se construit ou ça se reconstruit. Comme on construit un mur, comme on construit une maison, c'est-à-dire brique après brique. Ça prend du temps. Et pour cela, comment est-ce que je reconstruis ma confiance avec Dieu ? Eh bien, en passant beaucoup de temps avec lui. Beaucoup de temps avec lui. Et je veux le dire de manière plus spécifique à ceux et celles qui souffrent aujourd'hui d'anxiété dans leur vie. Passe beaucoup de temps avec Dieu. Arrête de courir dans tous les sens, peut-être, et pose-toi. Prends le temps. Si tu ne prends pas le temps, tu ne changeras jamais cela dans ta vie. Prends le temps dans la prière, dans la louange, peut-être dans le jeûne. Prends du temps dans la lecture et l'étude de la Bible. Prends le temps dans les prophéties que tu as reçues il y a peut-être 10 ans, 15 ans en arrière. Prends le temps si tu es dans cette situation où l'angoisse te submerge tous les matins, ou si tu ne dors plus, ne laisse pas la vie t'emmener dans tous les sens. Pose-toi, arrête-toi et dresse ton bouclier devant toi. Jésus nous encourage à nous nourrir constamment de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Dans l'Église, nous avons bien sûr ce ministère autour de Marie Gauthier et plusieurs pour nous aider aussi. Peut-être je voudrais réencourager les membres de l'Église à bénéficier de ce ministère où on peut laisser Dieu venir nous montrer les choses qui sont liées à nos angoisses, à nos craintes, afin qu'il nous en débarrasse. Parce que Dieu nous libère de nos peurs, de nos fardeaux et des hontes qui peuvent arriver dans nos vies. N'hésitons pas à demander le soutien auprès des frères et sœurs. Et enfin, la dernière chose pour rebâtir sa confiance, que je dirais ce matin, c'est de passer du temps les uns avec les autres, tout simplement, avec les frères et les sœurs. Et j'aspire vraiment, du fond de mon cœur, que encore plus cette année qui va s'ouvrir devant nous, eh bien, on ait une dimension familiale toujours plus forte au milieu de nous, qu'on puisse se porter les uns les autres et accueillir les craintes de mon frère et de ma sœur, et de l'aider à avancer et à être libéré. Personne ne devrait se sentir seul pour affronter ses peurs. Et l'Église existe pour que chaque chrétien puisse construire une pleine confiance en son Dieu. Portons les fardeaux les uns des autres, l'apôtre Paul nous dira. Peut-être je peux réinviter l'équipe de louanges, si vous voulez bien revenir. Terminer, dire deux petites choses, prier, et puis après, je voudrais juste qu'on prenne deux, trois chants.